Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui tient ses promesses. La semaine dernière, je vous annonçais des entretiens avec deux personnalités de premier plan qui font l'actualité économique sur le continent africain, Paris Tenu. Ces entretiens, que vous avez peut-être déjà découverts en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, permettent de mieux comprendre les derniers événements de ces derniers jours, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, au Sénégal, au Sahel, au Togo ou encore au Gabon. Autant de faits d'actualité nés de la politique et qui ont des conséquences économiques pour l'activité des entreprises et plus généralement celle des citoyens. Dans la seconde partie de l'émission, l'un des économistes francophones les plus connus et les plus reconnus en Afrique, nous l'avions reçu il y a un peu plus d'un an pour un entretien que vous aviez été très nombreux à suivre et depuis, il est resté plutôt discret. Ses critiques contre la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, n'avaient pas été forcément bien reçues. Il sort donc de son silence médiatique. L'économiste togolais Kako Nubukpo, commissaire de l'UMOA chargé de l'agriculture, est passé cette semaine dans nos studios. Il nous livre ses analyses après l'élection au Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, ses promesses de réformes économiques, notamment en matière monétaire, l'abandon du franc CFA réclamé aussi par l'Alliance des États du Sahel, des questions sur la souveraineté agricole du continent et enfin sur la polémique autour de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura et de son éventuelle prestation aux Jeux Olympiques. Que dit-elle de la relation entre Paris et l'Afrique francophone? Entretien à ne pas manquer. Mais d'abord, commençons par le Gabon.
RFI à Libreville, 104 FM.
Le Gabon, théâtre d'un coup d'État militaire le 30 août 2023. À sa tête, le général Brice Oligui Nguema. Ce pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, longtemps gouverné par la dynastie Bongo, vient d'entamer un dialogue national présenté comme inclusif, une démarche censée préparer la transition vers un retour du pouvoir au civil à l'horizon 2025. Notre invité est le ministre de l'économie et des participations du Gabon. Il va détailler ses priorités et celles de son gouvernement, transparence, investissement, diversification, sortie de la dépendance du pétrole. Bonjour Maïs Mouissi.
Bonjour.
Quelques mots très rapides de votre parcours. Vous êtes né à Libreville en 1986, une enfance dans le quartier PK7, un quartier défavorisé de la capitale, une scolarité au Gabon, des études supérieures dans la finance à Dakar, au Sénégal, puis en France, une carrière dans la banque avant de devenir analyste économique, conseil aux entreprises, en parallèle, un engagement politique au Gabon, avant cette nomination, quelques jours après le coup d'État, comme ministre de l'économie et des participations dans le gouvernement de transition, celui qui doit préparer les élections, un retour du pouvoir au civil. Ça a été le grand saut pour vous, cette entrée dans le gouvernement ?
On peut penser que c'est un grand saut au regard du contexte qui a conduit la formation de ce gouvernement et les événements, notamment ce que nous appelons le coup de la liberté, qui ont mis un terme à ce que beaucoup de Gabonais craignaient, c'est-à-dire le maintien du régime d'Ali Bongo à la tête de l'État, au moment où il y avait dans l'opinion, et que c'était exprimé par les urnes, un rejet de sa politique et de son régime.
Et d'un point de vue personnel, en quelques mots, être comme ça amené à avoir des responsabilités très importantes pour un pays comme le vôtre, alors que vous aviez surtout une carrière dans l'entreprise ?
Écoutez, ces fonctions, on les prend avec beaucoup de gravité, parce qu'en réalité, c'est un défi. Lorsque le président de la transition nous a appelés aux responsabilités, il a voulu que chacun de nous vienne mettre l'intégralité de son expérience au profit de la nation et au profit de la période de transition, qui est une période, et vous avez raison, particulière. Parce qu'il y a énormément d'attentes sociales, beaucoup de revendications qui étaient étouffées avant l'action militaire se sont faites jour. Et notre responsabilité en tant que gouvernement, en tout cas c'est la tâche qui nous a été assignée par le président de la République, est d'essayer d'y répondre de façon efficace et méthodique pendant les 2 ans de transition.
Alors le général Brice Oligui Nguema a été perçu comme un sauveur. Le mot était peut-être un peu trop fort. Est-ce que l'économie gabonaise va vraiment mieux depuis le coup d'État ?
Nous pensons qu'il y a effectivement des changements positifs dans l'économie de notre pays. Des changements d'abord par rapport à la méthode. Le premier principe est celui de la transparence. Nous sommes particulièrement transparents sur les résultats que nous produisons. Nous sommes transparents sur la politique que nous menons. Et nous avons un dialogue franc aussi bien avec les partenaires techniques et financiers qu'avec les investisseurs. Ce changement de méthode donne de la crédibilité à notre pays qui, d'ailleurs, commence à être constaté dans des instances internationales. Le rating du Gabon a progressé, notamment sur la perspective au niveau des agences de notation, et la relation qui était suspendue avec les partenaires techniques et financiers.
Parce que le Gabon a été dégradé dans un premier temps, et là, il y a une stabilisation, on va dire.
La perspective de la dette gabonaise, qui est notée B- chez la plupart des agences, était plutôt négative. Et elle a été passée à stable, ce qui montre bien qu'il y a des changements à ce niveau-là. Mais aussi au niveau de la relation avec les partenaires techniques et financiers, puisque aujourd'hui, le Gabon est sorti du cycle de sanctions dans lequel il était rentré, non pas du fait du coup d'État, mais du fait d'une accumulation trop grande d'arriérés vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers.
Le grand chantier économique est peut-être surtout celui de la diversification. C'est un projet depuis de nombreuses années, mais qu'il faut accomplir aujourd'hui. Le Gabon est très riche en pétrole. Changer ce modèle économique, c'est ça peut-être la première priorité si on parle de façon générale ?
C'est l'un des défis. En réalité, nous avons plusieurs priorités. Il faut se rappeler que nous avons pris le pays avec un certain nombre de difficultés multisectorielles. Et notre ambition pendant la période de transition est de pouvoir adresser les problématiques les plus urgentes. La diversification est l'une de ces problématiques. Nous avons une économie qui reste fortement dépendante du secteur pétrolier et nous sommes pleinement engagés pour parvenir à la diversifier en faisant monter d'autres secteurs. Nous pensons au secteur des mines notamment. Nous avons toute une stratégie minière qui va au-delà du manganèse. Le manganèse, effectivement, c'est le principal minerai extrait dans notre pays, mais nous avons signé récemment pour le minerai de fer de Baniaka avec une société qui s'appelle Réminac. Dans les 18 mois, le site rentrera en exploitation. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant. Donc nous allons avoir 2 minerais exportés. Et puis, nous sommes en train de réfléchir à améliorer les corridors logistiques pour avoir une plus grande production minière, pour ne parler que de ce secteur.
L'or aussi ?
L'or, effectivement, est un relais de croissance que nous regardons. Et là, nous mettons à contribution.
Quand on regarde les cours mondiaux, il y a du potentiel.
Il y a du potentiel. Mais la volonté du président est celle-là. Premièrement, il veut une plus grande implication des Gabonais, des entreprises gabonaises dans l'exploitation du minerai, notamment de l'or. Ça passe par 2 leviers. Le premier levier est de mieux encadrer les orpailleurs artisanaux. Et là, nous avons toute une politique en lien avec la Société équatoriale des mines que nous sommes en train de mettre en œuvre. La deuxième est que nous avons la Société équatoriale des mines, qui est le véhicule de l'État dans le secteur minier, qui opère elle-même des gisements aurifères. Et là aussi, il y a une volonté de l'État, du Premier ministre, du chef de l'État, de lui donner plus de force pour élargir le spectre d'action de la Société équatoriale des mines, non seulement dans l'or, mais dans les autres minerais pour lesquels elle détient par nature 10% des parts des différentes sociétés du fait de la législation minière et en cours dans le pays.
Vous avez parlé des attentes de la population. Selon la Banque mondiale, 1 habitant sur 3 au Gabon vit sous le seuil de pauvreté, moins de 2 euros par jour ou l'équivalent de 2 euros par jour. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis votre arrivée début septembre 2023 ?
D'abord, cette situation constatée par la Banque mondiale et par d'autres rapports est une situation qui, du point de vue du CTRI, n'est pas acceptable. Qu'avons-nous fait concrètement ? Premièrement, nous avons créé de l'emploi dans l'administration publique, en faisant en sorte qu'un certain nombre de postes qui n'étaient plus pourvus depuis un certain nombre d'années du fait du gel des recrutements de l'administration publique soient pourvus. C'est, au moment où je parle, un peu moins de 8000 postes qui ont été créés depuis que le CTRI est arrivé au pouvoir. Ensuite, nous sommes dans un dialogue avec les entreprises, notamment la Fédération des entreprises du Gabon, pour voir comment nous pouvons créer des passerelles pour que l'emploi se crée aussi dans le secteur privé. Parce que notre conviction est que le secteur public par lui-même, ne peut pas absorber l'intégralité des besoins en matière d'emploi. Troisième point, nous travaillons sur la croissance. Évidemment, nous avons trouvé un pays, en 2023, nous avons fait 2,3% de croissance. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des niveaux de croissance qui sont de 4, 5, 6 et même en réalité proche de 2 chiffres pour pouvoir créer suffisamment d'emplois. Nous travaillons là-dessus. Lorsque nous y parviendrons, ça va prendre un peu de temps, nous parviendrons à mieux juguler la question de l'emploi et du chômage dans notre pays.
La lutte contre la pauvreté, c'est créer de l'activité, mais c'est aussi lutter contre la vie chère. Et ça, c'est une vraie préoccupation des Gabonais, pas que des Gabonais d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait là aussi, concrètement, pour lutter contre la hausse des prix pour de nombreuses denrées?
D'abord, nous avons été très concrets. Nous sommes partis d'un constat. Nous sommes un pays qui est particulièrement extraverti. Nous importons 80 à 90% de ce que nous consommons. Et donc, nous sommes particulièrement dépendants de toutes les personnes à l'extérieur de notre pays qui sont sur la chaîne de valeur. D'abord les producteurs, mais les transporteurs, les transitaires et toutes ces personnes qui sont en amont de l'arrivée des produits alimentaires dans notre pays. Donc, qu'avons-nous fait concrètement? Nous avons identifié un certain nombre de produits de grande consommation pour lesquels nous avons eu une action concrète. Nous avons mené des discussions avec les producteurs, avec les commerçants pour arriver à trouver un équilibre entre une réduction des marges des commerçants et une réduction de la fiscalité pour l'État de façon à réduire les prix d'un certain nombre de produits
sur de première nécessité. L'alimentaire, par exemple, en priorité?
Nous avons fait l'alimentaire, mais nous avons estimé que ce n'était pas assez. Nous avons adjoint à cela les matériaux de construction, le sable, le ciment, le gravier. Nous avons là aussi baissé les prix et nous sommes allés plus loin dans le transport, par exemple. Nous avons eu une action en faisant baisser la TVA pour que les prix des billets d'avion sur les vols intérieurs soient revus à la baisse, tout comme les prix des billets de train.
Les carburants?
Là aussi, nous avons eu une action au mois de novembre. Il faut savoir que nous avons un système de péréquation au Gabon sur les carburants qui font que, par nature, les personnes qui vont à la pompe payent moins que le prix normal de carburant. Mais au-delà de cela, nous avons fait un effort supplémentaire. En novembre, nous avons baissé de 10 francs le prix de carburant à la pompe pour les particuliers. Et sur le carburant industriel, nous avons baissé de 15 francs. Et nous entendons que sur le carburant industriel, ce n'est pas assez. Nous avons toute une réflexion que nous conduisons actuellement pour trouver une solution beaucoup plus forte encore.
Autre chantier dans ce domaine-là, les retraites, les arriérés de retraite pour les plus âgés des Gabonais.
Alors, sur les retraites, nous avons fait 2 choses. Et là aussi, c'est quelque chose que nous devons au président de la République, parce que c'est quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il y a la question de l'arrimage, qui est le fait d'aligner le système de retraite sur le nouveau système de rémunération des agents publics. C'est quelque chose qui avait été promis aux retraités depuis des années, qui n'avait jamais été fait. Nous l'avons fait. Ensuite, il y a la question des arriérés de retraite qui a également été prise en compte. Ce qui fait que certains retraités, et pour beaucoup d'entre eux, ont eu à la fois une hausse liée à l'arrimage et une deuxième hausse liée aux arriérés qui étaient attendus par ces retraités-là. Et ça, c'est du pouvoir d'achat très net que nous avons injecté au profit des populations souvent les plus vulnérables.
Pour les moins fortunés, il y a des problèmes au quotidien, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, y compris dans la capitale, Libreville. Est-ce que des chantiers, là, sont en cours ou sont en projet pour les prochains mois pour améliorer sensiblement cette situation?
Est-ce qu'il y a une volonté d'aller? Oui, mais permettez-moi quand même de faire le constat de la situation que nous avons trouvée. Nous avons trouvé un pays sur l'ensemble du territoire où nous avons un stress hydrique violent qui fait que nous n'avons pas d'eau dans certains quartiers ou bien pas de façon continue. Aussi bien à Libreville et sa périphérie qu'à l'intérieur du pays. Moi, je suis originaire d'une ville qui s'appelle Ndendé. Il y a des stress hydriques et l'électricité est coupée en journée et arrive à partir de 18 heures. Qu'avons-nous fait de façon concrète? Nous voulons régler le problème dans le long terme, mais dans l'attente et dans l'urgence, nous avons pris des solutions de court terme pendant que nous travaillons pour le long terme. Nous avons acquis un certain nombre de groupes électrogènes pour faire en sorte que ces groupes assurent l'électricité le temps que nous mettions en place les solutions de barrages hydroélectriques ou bien des centrales à gaz qui permettrait de régler de façon durable et définitive la question de l'électricité. Concernant la question de l'eau, nous avons deux grands projets sur la table. Il y a le projet de Ntoum 7 pour lequel nous avons déjà reçu les investisseurs qui sont dessus. Dans le cadre de mon passage à Paris, j'en ai reçu encore. Et il y a la projection de faire une prise d'eau un peu plus loin dans la région de Congo, qui est également sur la table sur laquelle nous travaillons.
Monsieur le ministre, l'état des routes au Gabon est également souvent critiqué. Là encore, de grands chantiers sont à prévoir pour les années qui viennent.
Les routes, ce sont les routes nationales et les routes dans le périmètre urbain. Le président a lancé un certain nombre de travaux urbains à Libreville et sa périphérie. Ce sont des routes en béton armé qui sont en fait. Au moment où je partais de Libreville, nous avions à peu près une bonne cinquantaine de kilomètres qui avaient déjà été traités sur Libreville. Il y a des travaux similaires dans les provinces de l'intérieur du pays. C'est le cas dans la province du Wolentem, c'est également le cas dans la province de Longounié et même dans la province de l'Ogoué-Maritime. Donc la question des routes est une question que nous sommes en train de traiter. Et sur les grands tronçons nationaux, nous avons des discussions. On est en discussion avec la Banque africaine de développement pour faire démarrer cette année la route Ndende-Lusala qui permet de faire la jonction entre le Gabon et le Congo. C'est sur le tracé de la transafricaine. Et en même temps, le président a lancé les travaux dans le nord de la route qui permet de faire Oyem-Mongomo, qui permettra de faire la jonction avec la Guinée équatoriale.
La voie ferroviaire, le transgabonais, lui aussi a besoin d'être rénové?
Oui, le transgabonais qui est la dorsale qui permet de relier Libreville à Ovindo et au centre minier de Moanda est une voie qui a été construite initialement pour accueillir un trafic de 3 millions de tonnes métriques de manganèse sur une année. Aujourd'hui, nous sommes proches de 10 millions de tonnes métriques. Dans l'intervalle, la voie s'est dégradée. Nous avons sur quelques centaines de kilomètres ce que nous appelons des zones instables où nous avons un certain nombre de déraillements qui se sont produits. Donc il y a tout un programme, c'est le programme de remise à niveau de la voie qui est financé pour partie par l'AFD, pour partie par Proparco et pour partie par l'État gabonais. Les travaux sont en cours, mais en même temps nous réfléchissons. La voie telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas d'assurer notre ambition minière et de transport de fret. Il faut donc soit un doublement de la voie ou bien des voies alternatives qui mènent vers d'autres endroits du pays. Mes collègues et moi sommes en train de réfléchir à voir comment nous pouvons travailler sur d'autres tracés. Nous avons des manifestations d'intérêt pour faire des tracés soit avec un débouché vers Port-Gentil ou bien un débouché vers Mayumba.
Énormément de projets à financer. Nous allons voir comment avec Maïs Mouissi, le ministre gabonais de l'économie et des participations. Il est notre invité exceptionnel sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Pour financer tout cela, il faut donc rétablir un équilibre budgétaire, augmenter ses ressources. Le Gabon vient de contracter un emprunt sur les marchés financiers de l'Afrique centrale. On parle de plus de 850 milliards de francs CFA. À quoi cet argent va-t-il servir en priorité?
Bon, je pense qu'il y a méprise et j'ai vu également circuler l'information. Il y a eu une communication du ministre des Comptes publics, du directeur du Trésor et du directeur de la dette pour donner notre ambition d'endettement sur l'année budgétaire. Et c'est cette ambition qui est de l'ordre de 800 milliards. Mais nous n'avons pas souscrit aujourd'hui 800 milliards de dettes. C'est de l'emprunt progressif que nous allons faire sur l'ensemble de l'année budgétaire, comme nous le faisons. Nous émettons des OTA, des BTA chaque mois pour des besoins de trésorerie, comme la France le fait chaque semaine, le vendredi, avec l'Agence du Trésor.
Donc il ne s'agit pas d'un nouvel emprunt? C'est la continuité de ce qui existe déjà?
Non, nous sommes en train de dire que tout ceci obéit à une stratégie d'endettement et il ne s'agit pas d'aller sur le marché en une fois récupérer 800 milliards. La capacité du marché sous-régional ne le permet pas. Mais nous avons une stratégie de lissage de l'emprunt pendant l'année, tout comme nous lissons aussi les remboursements d'emprunt sur l'année budgétaire. Maintenant, la question que vous posez qui me paraît être tout à fait pertinente, c'est à quoi va servir cet argent? Évidemment, nous avons à cœur de répondre aux besoins d'investissement et à la demande sociale des citoyens. Nous allons principalement faire de l'investissement et chacun pourra le constater sur le terrain. Et nous disons que, évidemment, il nous faut nous endetter un peu parce que les ressources de l'État, elles seules, ne permettent pas de porter toute l'ambition que nous avons. En revanche, nous allons faire de l'investissement productif qui va permettre de faire des réalisations concrètes, les routes, les écoles, la santé et porter la croissance sur le long terme.
Cette dette, elle est plus soutenable grâce à une monnaie stable? Celle du Gabon, celle qu'utilise le Gabon?
La dette est soutenable d'abord parce que l'État gabonais, lorsqu'il va s'endetter, en tout cas depuis que le CTRI est en responsabilité, cela obéit à une stratégie qui est particulièrement encadrée et particulièrement réfléchie. Évidemment, le Gabon fait partie de la zone franc, nous avons le franc CFA, et dans le franc CFA, nous avons les critères de convergence, et dans les critères de convergence numéro 1, nous avons le plafond d'endettement qui est fixé à 70%. Nous faisons en sorte de rester dans le cadre de ce plafond. Aujourd'hui, nous sommes en dessous de 70%. Ce n'est pas le cas de tous les pays de l'espace CEMAC. Là aussi, c'est une preuve de bonne gestion dont on peut créditer notre gouvernement.
Lors d'une mission en février dernier, le Fonds monétaire international, qui s'est rendu au Gabon, a constaté des progrès sur le plan budgétaire, malgré une situation qui reste difficile. Que faire pour satisfaire au mieux les grandes institutions internationales? Augmenter les rentrées fiscales, par exemple?
Alors, il faut faire beaucoup de choses. Les entrées fiscales, nous les avons augmentées. Depuis 7 mois que le gouvernement a été mis en place, les objectifs en matière de collecte fiscale et douanière, que nous publions d'ailleurs chaque mois, sont systématiquement dépassés. Ça fait 7 mois. Donc, c'est bien une tendance que nous sommes en train de dessiner. Maintenant, il est vrai que le FMI et la communauté financière internationale attendent de nous que nous poursuivions les réformes. Les réformes, c'est faire beaucoup plus de transparence. Nous nous engageons à cela. Les réformes, c'est faire en sorte d'améliorer le cadre des affaires. Nous le faisons. Les réformes, c'est faire en sorte que le compte unique du Trésor qui est implémenté dans notre pays soit beaucoup plus structuré, beaucoup plus efficace et pleinement opérationnel. Les services de la Direction générale du Trésor sont en train de travailler là-dessus aussi.
Est-ce que vous seriez favorable à un prêt de la part du FMI, comme d'autres pays africains ont pu le souscrire?
Nous avons trouvé le Gabon en programme avec le FMI. Programme qui devait s'arrêter à la fin du mois de juin 2024. Et vous savez, lorsqu'on fait un programme avec le FMI, c'est ça qui conditionne les prêts et les financements du FMI, qui sont des financements concessionnels. Et pour qu'il y ait des décaissements, il faut que le Gabon soit en capacité de respecter les éléments contenus dans le programme. Or, nous avons constaté en arrivant que sur les 6 ou 7 revues qui devaient avoir lieu dans le cadre de ce programme, le Gabon était bloqué à 3 revues. Le précédent gouvernement n'honorait pas les engagements qu'il avait pris devant le FMI. C'est la raison pour laquelle nous avons dit au FMI, nous n'avons rien à cacher. Venez dans le cadre d'une mission au titre de l'article 4, faites un audit, faites-nous un rapport. Nous-mêmes, nous allons nous appuyer sur ce rapport pour avoir un état des lieux exhaustif et extérieur de la situation. Et en fonction du rapport que fera le FMI, nous aviserons, le président de la transition avisera et on se prononcera à ce moment-là.
Peut-être plus tard. Donc, est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer à l'étranger? Est-ce qu'il y a eu de l'évaporation pendant les années Bongo?
Vous savez, j'ai les défauts de mes qualités et par nature, je suis franc. Okay, ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'argent qui aurait dû rester dans les caisses de l'État, qui a pris d'autres directions, et une partie de cet argent se trouve très probablement à l'étranger. Est-ce que nous allons pouvoir récupérer la totalité de cet argent? C'est fort peu probable parce qu'il n'existe quasiment pas d'exemple dans le monde où, en matière de récupération, nous avons réussi à tout faire. Mais est-ce que nous allons nous engager pour en récupérer une partie? Très probablement. Parce qu'on ne peut pas laisser autant de déperditions financières. Lorsque preuve est faite qu'il s'agissait de l'argent public qui n'avait pas vocation à servir des individus, il faut évidemment s'engager pour que tout l'argent qu'on pourra récupérer pour servir le bien-être des Gabonais le soit.
Maïs Mouissi, le ministre gabonais de l'économie, est notre invité sur Radio France Internationale. Nous parlons à présent des relations avec les autres pays. Maïs Mouissi, vous êtes en France pour des rendez-vous à Bercy, au ministère de l'économie, des rendez-vous aussi au MEDEF, au patronat. Qu'étiez-vous venu chercher ici?
Nous sommes venus discuter avec nos partenaires. Nous avons ici non seulement la France en tant qu'État, un partenaire de longue date de notre pays, et les entreprises françaises, pour beaucoup, sont installées chez nous. Il faut savoir que le Gabon compte près de 90 filiales d'entreprises françaises qui représentent plus de 10 000 emplois dans notre pays. Nous avons besoin d'investissement. Nous sommes venus discuter avec les personnes qui ont les capitaux, qui sont en capacité d'investir et de nous accompagner.
Dans quel secteur, par exemple?
Dans les secteurs qui sont considérés comme prioritaires. La route, la santé, l'éducation, l'énergie, le chemin de fer. Et nous avons bon espoir, le moment venu, de faire quelques belles annonces, mais laissez-nous encore travailler un peu.
Vous signez encore des contrats avec des entreprises chinoises, pour les infrastructures par exemple ?
Oui, mais il n'y a pas de problème avec les entreprises chinoises. D'ailleurs, je veux leur dire qu'elles sont les bienvenues au Gabon. Le Gabon est un pays qui est ouvert à tous les partenaires qui veulent bien travailler avec lui, qu'ils soient français, chinois, indiens, américains, dès lors que ces partenaires sont en ligne avec nos politiques et sont désireux de respecter les lois que nous fixons. Tout le monde est bienvenu pour investir au Gabon.
La relation Nord-Sud, qu'avez-vous pensé, Maïs Mouissi, du nouveau pacte financier, de ce sommet de l'année dernière à Paris ?
Écoutez, je n'étais pas encore au gouvernement, donc j'ai regardé l'invitation du président Macron comme observateur. Je pense qu'il est bon que nous nous parlions. Je pense qu'il est bon que nous construisions les ponts qui permettent de faire passer des flux financiers d'un espace particulièrement favorisé à un espace qui l'est moins. C'était l'ambition de ce sommet. Maintenant, il faut aller aux actes. Il faut être concret. On a fait le sommet, on a besoin des flux financiers et du rééquilibrage des aspects des relations économiques et du commerce entre les pays du Nord et les pays du Sud. Il y a du travail à faire. En tout cas, nous nous sommes disposés à travailler pour accueillir beaucoup plus d'investissements parce que la vocation de nos pays est à moyen terme de faire du développement pour nos populations.
Merci infiniment, Maïs Mouissi, d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Maïs Mouissi, ministre de l'économie et des participations du Gabon. Cet entretien est à retrouver en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Et rendez-vous donc en 2025 pour ces élections que le général Brice Oligui Nguema a promis libres et transparentes. C'est ce qu'il a dit à l'ouverture du dialogue national inclusif ce mardi à Libreville. Dans quelques instants, on parle encore politique et économie avec Kako Nubukpo, juste après Jane Cosmic Love.
Cosmic Love, c'était Jane dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI.
Kinshasa, 105 FM.
Avant notre entretien avec Kako Nubukpo, un détour par la République démocratique du Congo qui a désigné, et c'est une première, une chef du gouvernement, Judith Souminwa Touluka, ancienne ministre du Plan, une formation d'économiste, une carrière dans la banque, un passage au PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. La RDC, près de 100 millions d'habitants, et des problématiques du quotidien comme l'inclusion financière, l'accès de tous et de toutes aux services bancaires. De nouvelles applications envahissent les téléphones. Reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Charlène Kalala.
Les points de retrait des applications de portefeuille numérique envahissent les rues de Kinshasa. Cédric est le propriétaire d'un point de vente dans le quartier populaire de Kitambo.
Bon, nous faisons les transactions, les retraits comme dépôt pour la Rebanque et d'autres banques.
Donc ça, maîtresse,
descendre à 3 000.
Descendre à 3 000 francs
À
7 déjà. Au 7 déjà.
Fini les cartes bancaires et les files d'attente interminables dans les banques pour récupérer de l'argent. Les applications mobiles comme M-Pesa ou Illico Cash ont révolutionné le quotidien des Congolais et des Congolaises. Pour cet agent bancaire, le numérique a changé la donne dans son travail.
En tant qu'agent, ils ont un peu simplifié la tâche. Il suffit tout simplement que le client ait l'application Illico Cash. Il vient auprès de l'agent, il donne ses informations telles que son numéro. Par après, nous allons faire l'opération des retraits comme dépôt.
Lancée en 2017, l'application Illico Cash permet aux clients de réaliser des opérations bancaires instantanées. Pour Joe, propriétaire d'un point de retrait, Illico Cash représente une manne financière pour son commerce.
Tout le monde a accès, il suffit juste d'avoir un téléphone. Vous avez votre compte Illico Cash, vous pouvez faire des transactions, acheter l'abonnement, payer les factures. Vous pouvez même acheter quelque chose dans un magasin et vous payez par Illico Cash, sans problème. En tant qu'entrepreneur, ça nous permet aussi de gagner aussi de notre côté parce qu'il y a une commission quand les gens font des retraits et des dépôts.
Avec son équipe, Karim Nouri, directeur fintech de la Rebanque, a tout mis en œuvre pour sécuriser les transactions des utilisateurs.
Ce qu'on fait au niveau de l'application, on met plusieurs couches de sécurité. Si quelqu'un a volé ton téléphone, il ne pourra pas accéder à l'application. Et le système interne qui protège aussi les cyberattaques.
Aujourd'hui, Illico Cash compte plus de 200 000 utilisateurs. En s'adaptant aux usages et aux besoins des populations, malgré certains problèmes de connexion, le mobile money a réussi à conquérir les Congolais. Charlène Kalala, Kinshasa, RFI.
Et puisque nous parlons de banque et de technologie, sachez que le Cyber Africa Forum, événement continental sur la cybersécurité, sera organisé cette année à Abidjan les 15 et 16 avril prochains. Son fondateur et organisateur, Franck Kier, nous a accordé un entretien à retrouver lui aussi en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI, rubrique « Les invités de l'économie ».
RFI à Dakar, 92 FM.
Dakar, le Sénégal qui a vu l'investiture d'un nouveau président, Bassirou Diomaye Faye, et la nomination de son premier ministre, Ousmane Sonko. Un tandem qui promet le changement systémique et la souveraineté, l'apaisement après des temps agités. C'est l'un des sujets d'actualité que nous allons disséquer avec notre invité, Kako Nubukpo, le célèbre économiste togolais, de retour à notre micro. Bonjour Kako Nubukpo.
Bonjour.
Je suis ravi de vous recevoir ici à RFI en compagnie de Julien Clémenceau, chef du service économie. Bonjour Julien.
Bonjour Bruno.
Nous allons donc parler de la réforme du franc CFA, du Sahel et de la CDAO, de l'agriculture, mais d'abord donc le séisme politique au Sénégal.
Le 24 mars, Bassirou Diomaye Faye a largement remporté l'élection présidentielle après des semaines de doutes sur la tenue de ce scrutin. Avant de parler d'économie, est-ce qu'on peut dire que la démocratie sénégalaise a passé avec succès son crash test ?
Oui, tout à fait. C'était une belle surprise parce que ça montre bien que l'Afrique n'est pas fâchée avec la démocratie. Ce que certains veulent nous faire croire, des fois... Et puis parce que c'est des gens que j'aime bien, moi. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il faut savoir que quand j'ai initié les états généraux de l'écho à Lomé au mois de mai 2021, j'ai travaillé avec eux pour justement la participation d'Ousmane Sonko qui a fait son discours en visioconférence s'il n'avait pas eu le droit de sortir du territoire sénégalais.
La transparence est au cœur du projet défendu par le nouveau président sénégalais. Combattre la corruption, est-ce qu'il en aura les moyens ?
Oui, parce qu'il y a une volonté très forte manifestée durant la campagne, même si la campagne fut courte. Et je crois que le peuple sénégalais a envie de changement, a une forte demande de redevabilité. Et du coup, je crois que l'exécutif aura à ses côtés la majorité de la population qui aimerait voir plus clair dans tout ce qui s'est passé.
Il y a beaucoup de promesses économiques dans le programme de Bassirou Diomaye Faye et du PASTEF, les accords dans le secteur des hydrocarbures. Est-ce que ces promesses pourront être tenues? Est-ce que le pouvoir ne sera pas rattrapé par la réalité?
Oui, ce qui est important, c'est la transparence. Donc je crois qu'il faudra revoir la nature des contrats et surtout les clauses de renégociation potentielles. Parce qu'il n'y a pas de contrat sans clause de revoyure ou de clause de renégociation. Et surtout, faire participer la population. Je crois qu'un des soucis que nous avons en Afrique, lorsque les contrats sont signés avec les pouvoirs exécutifs, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment publicisés. Et à partir du moment où les choses sont transparentes, on peut voir ce qui est possible de revoir et ce qui est possible de garder. Parce que l'idée, c'est cette suspicion récurrente qu'il y aurait de la corruption dans les contrats. Ce n'est pas toujours le cas. Mais le fait de ne pas rendre transparents les contrats laisse finalement cette petite musique dominer.
Au-delà du pétrole, au-delà des hydrocarbures, du gaz, il y a aussi les contrats sur la pêche, des accords avec l'Union européenne, aussi des accords avec des pavillons étrangers, notamment chinois. Et là, ce qui pêche, notamment avec les pavillons chinois, c'est le fait qu'il n'y ait pas assez d'intérêts sénégalais, parce que normalement, il doit y avoir 50% d'intérêts sénégalais. Là aussi, il y a besoin de transparence et peut-être de défaire les contrats qui ne respectent pas les règles.
Exactement. Et là, il y a une vraie urgence parce que le taux de reconstitution des poissons est plus faible que le taux de prélèvement, ce qui fait qu'il y a un vrai danger pour la sécurité alimentaire des populations. Et la pêche dite INN, hein, qui est interdite, malheureusement, elle est quand même très présente en Afrique de l'Ouest.
Avant de parler du franc CFA, hein, un sujet qui vous intéresse particulièrement, au sujet justement des relations avec les pays étrangers en Afrique et ailleurs, je voudrais que l'on écoute quelques mots de Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais, lors de sa première déclaration.
Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive.
Le Sénégal tiendra son rang tant que tout le monde respecte les règles, nous dit le nouveau président. Tout le monde est prévenu là.
Tout à fait. C'est une revendication légitime de souveraineté. Et je crois que c'est peut-être la tendance lourde actuelle en Afrique, cette demande de souveraineté de la part des peuples et des dirigeants. Et on va l'entendre, cette musique, de plus en plus.
Dans son programme, Bassirou Diomaye Faye a aussi défendu la réforme du franc CFA, monnaie de plus en plus critiquée. Cela doit vous réjouir de voir un chef d'État fraîchement élu remettre en cause cette monnaie et remettre cette question sur la table, à la fois pour des questions politiques et aussi symboliques.
Tout à fait. C'est important parce que le débat sur le CFA a longtemps été interdit. Et le retour de ce débat, au fond, c'est un peu comme le retour du refoulé. Et quand c'est porté par les autorités en charge du destin des nations, c'est tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus important.
Donc le camp réformateur reprend des couleurs.
Exactement.
Concrètement, comment les États ouest-africains doivent-ils procéder? Ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine, les coups d'État avaient de fait enterré cette réforme. Le projet d'adoption d'une monnaie commune à toute la CDAO qui, in fine, pourrait remplacer le CFA n'avait jamais paru aussi loin.
Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut faire quatre choses et rapidement. La première, c'est changer le nom de la monnaie. Revoir la garantie qu'apporte la France au CFA, à mon avis, il faut l'abandonner parce qu'elle n'a jamais vraiment servi. Quand on observe sur longue période, nous avons toujours défendu la parité. Et la seule fois où on n'a pas pu le faire, on a dévalué en 1994. Troisième chose, il faut revoir la gouvernance au sein de la zone franc, en particulier l'articulation de la politique monétaire qui est commune et les politiques budgétaires qui sont nationales. Vous savez qu'actuellement, nous gérons notre espace avec deux traités. Il y a le traité de l'Union monétaire de 1962 qui a été revu plus tard, en 2007, mais il y a aussi le traité de l'Union économique de 1994 qui a été revu en 2003. Et il était prévu une fusion des deux traités. Il faut faire la fusion pour une meilleure articulation politique monétaire, politique budgétaire. Et enfin, quatrième et dernière chose, la question du régime de change. Mais à discuter d'emblée avec la CEDEAO.
Vous appelez à des nouveaux états généraux de l'écho, comme l'écho, s'est appelé en 2021.
Tout à fait. Pour le mois de mai 2025, parce que ça va être les 50 ans de la CEDEAO, ce serait très bien qu'on puisse avoir une deuxième édition des États généraux de l'écho.
Vous allez organiser ça, vous ?
Moi, je pensais à un pays comme le Sénégal pour que le débat, justement, puisse prendre corps dans une enceinte.
Donc c'est un appel que vous lancez au gouvernement sénégalais ?
Tout à fait.
Beaucoup de recommandations, mais il y a aussi des contraintes qui existent. Il y a le déficit budgétaire, il y a l'inflation qui est un sujet mondial, mais qui est un sujet africain aussi en ce moment. Des économies qui vont à des vitesses très différentes. Comment est-ce qu'on fait pour contourner cet obstacle dans le contexte là de ces dernières années, de la guerre en Ukraine, du Covid et toutes ses conséquences?
Oui. La limite de la souveraineté monétaire, c'est la contrainte extérieure. Bon, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut définir d'emblée le principal objectif. C'est la transformation structurelle des économies, c'est la croissance, c'est la création d'emplois. Donc, la monnaie, comme le budget, ce sont des instruments. Et comme nous sommes 8 dans le cadre de l'UEMOA et 15, peut-être moins 3 dans le cadre de la CEDEAO, nous avons suffisamment d'espace pour discuter des modalités de la convergence. À titre personnel, je crois que les critères de convergence sont très intéressants pour entrer en union. Mais une fois que vous êtes en union, ce qui est important, ce sont les fonds structurels qui permettent aux économies les moins nanties de rattraper les locomotives. Et on n'a pas suffisamment ce débat sur les fonds structurels ouest-africains et comment on pourrait les piloter.
Si ça ne marche pas collectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que certains gouvernements veuillent répondre à une forme de colère de la population contre le franc CFA en créant leur propre monnaie ? C'est une idée qui court au Sénégal, oui. C'est une idée qui court aussi au Sahel parmi les pays de l'Alliance des États du Sahel.
Tout à fait, parce que la souveraineté monétaire, c'est quelque chose d'important. Ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État.
Est-ce que c'est un risque qu'il y ait des pays qui fassent cavalier seul pour vous ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et pour moi, ce serait même légitime. Parce que vous n'avez que deux leviers pour la politique économique, le budget et la monnaie. Le budget est corseté aujourd'hui. Et on le voit avec les taux d'endettement. On voit l'espace fiscal qui n'est pas aussi large qu'on voudrait. Et sur le plan monétaire, il n'y a pas une vraie activation de ce levier. Donc les États peuvent, par rapport à l'urgence sociale qui est la leur, vouloir utiliser la planche à billets pour passer les moments difficiles.
À titre personnel, pour vous, ce serait un échec collectif ?
Mais moi, je suis attaché à la notion de puissance. Et je sais que plus on est nombreux, plus on est potentiellement puissant. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Si au plan communautaire, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités en faisant de vraies réformes, ce serait tout à fait légitime que des États souverains décident d'assumer leur souveraineté tout seuls.
Quitte à peut-être pénaliser l'ensemble de la sous-région économique.
C'est clair que si le Mali, le Burkina et le Niger décident de sortir, il n'y aurait plus d'unité territoriale pour l'espace UEMOA. Parce que ce sont ces trois États sahéliens qui nous donnent notre unité territoriale. Vous auriez d'un côté le Togo et Bénin, entouré de pays non UEMOA, la Côte d'Ivoire toute seule, entourée de pays non UEMOA, et puis le Sénégal et la Guinée-Bissau, tout seuls, entourés de pays non UEMOA. Donc les notions de libre circulation des personnes et des biens deviendraient des notions purement théoriques.
En tout cas, du côté de ces États du Sahel, le processus est irréversible. En début d'année, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont dit vouloir quitter la CEDEAO. Quelle a été votre réaction à vous quand vous avez appris ça ?
Moi, j'ai applaudi parce que j'ai été contre les sanctions. et je ne l'ai jamais caché. Parce que ces sanctions économiques violaient les principes de gestion de notre zone. Parce qu'en obligeant une banque centrale indépendante à prendre des sanctions financières et monétaires, alors que ces États n'avaient violé aucune des règles de gestion monétaire, on affaiblissait nos instruments communautaires de pilotage des économies. Donc quand vous gelez les avoirs d'un État souverain, quand vous empêchez le refinancement des banques de cet État, ben, vous l'obligez à vouloir utiliser pleinement sa souveraineté. Donc il y a un souci. Vous voyez, c'est pour ça que moi, dès janvier 2022, je me suis insurgé contre les décisions prises à l'encontre du Mali. Et après, ça s'est poursuivi avec le Niger. Et à la fin, ces mêmes chefs d'État ont décidé de lever les sanctions, alors que les juntes sont toujours au pouvoir. Et donc, je pense que c'est un signal pour nous, à l'UEMOA, pour travailler avec ces trois États, discuter avec eux, voir ce qui ne leur convient pas dans la gouvernance actuelle et voir comment on peut avancer ensemble.
Pour la CEDEAO, vous pensez qu'il y a un espoir de les voir revenir au sein de la CEDEAO maintenant que les sanctions ont été levées ?
Oui, je sais qu'il y a des chefs d'État qui y travaillent. On veut être ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que moi, quand je parle de l'Afrique de l'Ouest, je ne parle pas de quelque chose de théorique. Vous ne le savez peut-être pas, mais mon épouse est malienne. Donc, dans le sang de mes enfants, il y a du Mali et du Togo. Et donc, pour moi, ce n'est pas une affaire théorique quand je parle d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment notre vivre ensemble. Et on ne peut pas accepter que des événements isolés dans le temps fassent reculer le processus d'intégration économique que nous avons. Donc, pour moi, c'est fondamental que nous restions ensemble. Mais nous ne pouvons pas rester ensemble tout simplement parce que nous étions ensemble hier. Il faut qu'on ait de vraies raisons de rester ensemble.
Avec un projet. Kako Ndoubokpo, économiste togolais, commissaire à l'UEMOA en charge de l'agriculture, notre invité sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Cette dernière année, Kako Ndoubokpo, vous avez travaillé à la révision de la politique agricole commune de l'UEMOA. Quel est l'objectif de ces travaux ?
Oui, comme vous le savez, nous n'arrivons toujours pas à atteindre notre autosuffisance alimentaire. Nous arrivons à nourrir avec notre production à peu près 80% de la population. Et ça nous coûte très cher les importations massives, par exemple, de riz. Vous voyez ? Donc notre idée, c'est atteindre cette autosuffisance alimentaire, cette souveraineté alimentaire. Et nous avons décidé de relire toute notre politique agricole, de redéfinir de nouvelles filières prioritaires. Nous en avons 5 à l'heure actuelle, dont 3 qui sont végétales, riz, maïs, coton, la filière bétail-viande et la filière avicole. Mais vous voyez par exemple que les tubercules, qui forment l'essentiel de l'alimentation des pays côtiers, n'apparaissent pas comme des filières prioritaires. Mmh. Or, le gari, la tchèque en Côte d'Ivoire, c'est quand même fondamental.
Mais est-ce que l'UEMOA, oui, compte tenu de ses moyens, peut aider les États à dynamiser ces filières et à monter dans la chaîne de valeur ?
Oui, tout à fait. Nous, on applique le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que nous ne faisons que ce que les États ne font pas. Mais en revanche, nous essayons d'assumer la coordination et d'envoyer les bonnes incitations. Mais on ne peut pas avancer sur les chaînes de valeur sans une bonne coordination avec les ministères du commerce, puisque la question de la protection se pose pour les industries dans l'enfance. Et donc, pour notre agro-industrie naissante, il faut vraiment gérer la question de la cohérence des politiques publiques. Ce qu'on y met en termes de moyens, par exemple, la politique agricole de l'Union européenne, c'est 50% du budget communautaire. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. Ce qu'on y met en termes de protection, on a des réflexions en cours autour de la taxe carbone, par exemple. Et enfin, comment on structure les organisations de producteurs pour qu'ils puissent augmenter leur pouvoir de négociation.
Vous le disiez tout à l'heure, il y a des filières identifiées comme prioritaires. Il y a des produits qui sont agricoles, qui sont extrêmement importants pour l'Afrique de l'Ouest, je pense à l'anacarde et au cacao, qui ne figurent pas dans ces filières. Est-ce que ça devrait être pris en compte ? Parce qu'elles ne figurent pas parce qu'elles étaient gérées au niveau national. Elles sont gérées au niveau national.
Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous prenez le coton, on a à peu près 5 ou 6 États sur les 8 qui en font. Donc d'emblée, c'est une filière qui nous préoccupe parce qu'on voit la valeur ajoutée au niveau régional. Le cacao, c'est un monopole ivoirien. Et donc on suppose que l'État ivoirien est le mieux placé pour gérer cette filière. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est l'approche métier, c'est-à-dire le producteur de cacao, comment l'aider à se structurer, comment assurer son bien-être, comment assurer qu'il ait une part décente de ce que génère la filière. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec l'EUROPA, qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest. Mais nous travaillons aussi avec des syndicats de filières comme l'APROCA, l'Association des producteurs africains de coton.
Les cours du cacao sont historiquement hauts. Il y a eu un effort avec une revalorisation des prix d'achat des productions pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. C'était indispensable ? La colère montait là aussi ?
Oui, c'était indispensable d'augmenter les prix aux producteurs ivoiriens. Parce que vous savez, le cacao et le café en Côte d'Ivoire, dans leur histoire sociale, c'est quelque chose de très fort. C'est le surplus du café cacao qui a financé tout le mouvement indépendantiste ivoirien sous l'égide du président Houphouët Boigny, la création du RDA en 1946 à Bamako. Donc je crois que c'est une histoire qui fait corps quasiment avec la vie sociale ivoirienne, au-delà même de la question agricole.
Kako Nobukpo, avant de nous quitter, je voudrais vous faire réagir à la polémique franco-africaine du moment. Polémique au demeurant très intéressante et qui illustre sans doute quelques ambiguïtés de cette relation. Ayana Kamoura, la méga star franco-malienne, pressentie pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris cet été, ce qui provoque pas mal de commentaires, notamment à l'extrême droite. Les identitaires en France se sont exprimés à leur manière pour s'y opposer. Marion Maréchal estime qu'Ayana Kamoura ne chante pas en français. Elle dit qu'elle ne représente ni la culture ni l'élégance française. La ministre de la Culture, d'origine marocaine, Rachida Dati, a réagi chez nos confrères de Skyrock dans l'émission Planète Rap. On l'écoute.
On peut ne pas aimer, mais moi j'ai dit prendre pour prétexte l'ouverture des JO ou autre, pour pouvoir l'attaquer sur sa personne ou sur ce qu'elle est, c'est inacceptable. Parce que là on n'est plus dans un pouvoir d'appréciation, là on est dans le délit. Enfin, c'est du racisme pur et dur. Donc il faut arrêter. Mais c'est toujours, c'est sous couvert de... C'est comme on parlait tout à l'heure sur les personnes issues de l'immigration qui accèdent à des hautes responsabilités. Ça ne va jamais. J'étais garde des Sceaux, ça va pas. J'ai été magistrat, ça va pas. Je suis ministre de la Culture, ça va pas. Je suis candidate à la mairie de Paris quand on en a parlé, ça n'allait pas non plus. Ça ne va jamais. Donc à un moment donné, faut dire à ces gens-là, faut qu'ils s'habituent.
Il faut qu'ils s'habituent. Kako Nobukpo, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça dit de la relation entre l'Afrique francophone et la France aujourd'hui ?
Tout d'abord, cette polémique, elle est excessive. Et comme disait Talleyrand, tout ce qui est excessif et insignifiant. Ensuite, comme vous le savez, moi j'ai été cadre à l'Organisation internationale de la francophonie. Et je trouve que c'est une chance d'avoir cet espace francophone qui nous offre des artistes comme Aya Nakamura. Et en plus, je pense que le métissage, c'est l'avenir de notre humanité. Et même d'un point de vue économique, c'est quelqu'un qui va au-delà de l'espace francophone. Et du coup, ça paraît totalement disproportionné et même quelque part contradictoire que quelqu'un qui appartient finalement à l'avenir de notre espace soit décrié avec des procès d'intention. Sur le principe même, moi je trouverais que ça formidable qu'une dame comme Aya Nakamura puisse chanter Édith Piaf. Pour moi, c'est le sens de l'histoire.
Il y a quelque chose entre la France et ses personnalités issues de l'immigration. Aya Nakamura, elle est née à Bamako, au Mali, avant de grandir dans une banlieue française.
Oui, il y a ce que le philosophe camerounais Achille Mbembe appelle un passé qui ne passe pas. On a toujours cette impression qu'on n'assume pas totalement notre histoire. Ces gens ne sont pas là par hasard. Ce sont des produits d'une histoire que nous avons en partage. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est notre avenir. Et c'est notre avenir qui est commun, en fait.
Aya Nakamura qui a réagi d'ailleurs à sa manière dans une chanson d'Oggy.
J'ai fait le taf, je suis en place. Oh, oh my god, ouais j'ai jobé en direct, il peut d'être. J'ai
pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais j'les connais même pas. Tu veux Dougie, 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 Dougie,
Dougie. Aya Nakamura et ses mots, j'ai pas d'ennemis, moi, c'est eux qui m'aiment pas. Merci infiniment, Kako Nebukpo, d'être passé dans nos studios pour cet entretien à voir, à partager, à commenter sur la chaîne YouTube de RFI.
Merci à vous.
Cet entretien disponible également sur nos réseaux sociaux, Facebook ou X, sur notre compte RFI Echo. Merci Julien Clémenceau.
Merci Bruno.
J'ai pas d'ennemis, moi, c'est eux qui m'aiment pas. Un tas d'ennemis, mais je les connais même pas.
Et merci à nos réalisateurs Guillaume Munier, Souel Kedir, Benoît Le Tyran, Adrien Toureau et Stéphane Desfossés. L'économie africaine, vous la suivez au quotidien sur nos antennes, dans nos chroniques. Aujourd'hui, l'économie, Afrique Économie, la chronique des matières premières, particulièrement partagée par vous, internautes, sur nos différentes plateformes. La semaine prochaine, direction l'Ukraine, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Où en est son économie en guerre contre la Russie? Comment elle se rapproche de l'Occident et en particulier de l'Europe? Expertise et reportage à ne pas manquer. Dans un instant, les dernières nouvelles du monde sur RFI. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.